donc je vais lire sans ne si pas être trop ennuyeux. Alors je vous lis. Alors l'essentiel de la thématique de ce séminaire sur le bonheur s'est construit à partir d'une Gemara. Donc la Gemara du traité Berachot 8a que vous avez dans la feuille que je vous ai donnée, la deuxième. Donc dans cette Gemara, les Chachamim opposent deux types d'humains, le Yare Shamaim et le Nehene Migiyo. On traduit donc le Yare Shamaim, celui qui craint le ciel, le Nehene Migiyo, celui qui profite ou qui jouit de son effort. Donc comme on l'a déjà vu dans deux précédentes séances, la Gemara oppose ces deux types d'hommes pour les hiérarchiser, puisqu'elle dit « Gadol un Nehene Migiyo, Yoter mi Yare Shamaim », c'est-à-dire que le jouisseur de son effort est plus grand que le Yare Shamaim, celui qui craint le ciel. Proposition étonnante qu'on va essayer de comprendre au cours de notre itinéraire dans ce texte. Donc pour justifier cette hiérarchie énigmatique, la Gemara va citer deux psukim tirés de Tehilim. Ces deux versets, tirés de deux psaumes différents, donc le 112 et le 128, évoquent tous deux le Osher. Osher, le bonheur. Le premier, le 112, parle du Osher propre au Yare Shamaim, alors que le second, Pasuk, celui du psaume 128, selon la Gemara, parle du Osher réservé à celui que la Gemara appelle Nehene Miyogio, celui qui profite de son effort. Voilà. Donc, mais la Gemara va relever que pour le Nehene Miyogio, donc du psaume 128, les Tehilim rajoutent qu'il aura aussi du Tov, puisqu'il est dit, on verra après en détail, mais je vous présente d'abord la chose en gros, Ashrecha Vetov Lecha. Donc, bonheur pour toi et bon pour toi, on va dire. C'est donc cet ajout du Tov qui marque, pour la Gemara, la grandeur supplémentaire. Enfin, c'est dans cet ajout du Tov qu'elle va voir la marque que celui qui profite de son effort est plus grand que celui qui craint le ciel. Et la Gemara va expliciter plus loin, plus profondément, ce doublon bonheur et bon, donc Ashrecha et Tov Lecha, en le faisant correspondre aux deux mondes. Bonheur, Be Olam Azé, et bon, Tov Lecha, Le Olam Abba. Alors que pour le Yare Shamaim, dans le psaume 112, il n'est pas dit Ve Tov Lecha, mais uniquement Ashre. Donc, voilà. Donc ce qui redouble notre étonnement, puisque celui qui craint le ciel semble être décrit comme, par la Gemara comme celui qui n'a pas la grandeur suffisante pour avoir sa part de Tov pour le monde futur. Comme si celui qui craignait le ciel était cantonné à ce monde-ci. Voilà, maintenant on va lire, on va essayer de lire. La Gemara. Betovlar, pardon. Ve'amar. Donc Ve'amar Rabbi Chiya bar Ami Mishmiya de Oula. Donc et il a dit Rabbi Chiya bar Ami au nom de Oula. Gadol anene migio yoter miyira shamaim. Donc plus grand est celui qui profite, qui jouit de son effort, que celui qui craint le ciel. Deilu gabe, car en ce qui concerne le Yare Shamaim, celui qui craint le ciel, Ktiv, il est écrit, donc là il va citer le psaume 112, Ashre ish Yare et Hashem, donc heureux l'homme qui craint Hashem. Veilu gabei nehene migiyo ktiv, alors que en ce qui concerne celui qui jouit de son effort, il est écrit dans le psaume 128, Yegia kapecha ki tochal, ashrecha vetov lach. Donc, l'effort de tes mains, tu mangeras, on va dire. Bonheur pour toi et bon pour toi. Ensuite, la Gemara explicite, ashrecha beolam azé, vetov lach le olam abba. Ou le gabei yere shamaim, vetov lach lo ktiv be. Et en ce qui concerne celui qui craint le ciel, il n'est pas écrit Betovlar. Voilà. Donc maintenant, vous avez sur l'autre feuille les deux Teilim. Donc le 112 qui parle du Yare et Hashem et le 128 qui parle de Yegia Kapecha Kitoral. Et donc que la Gemara traduit comme ou interprète comme Néné Miyogio, donc celui qui profite de son effort. Donc je vais juste lire les deux premiers versets du 112. Donc, Alléluia, Ashre Ish Yere Et Hashem, Be Mitzvotav Chafetz Meod. Heureux l'homme qui craint Hachem, dans ses mitzvot, il désire beaucoup. Traduction très littérale. Ensuite, le 128, Shir HaMa'alot, Ashrei kol yere Hachem, a oler bidrachav, yegia kapecha kitochel, ashrecha vetov lach. Donc, heureux tout celui qui craint Hachem, qui marche dans ses voies, Yegia kapecha, l'effort de ses mains, il mangera. L'effort de tes mains, tu mangeras. Bonheur pour toi et bien pour toi, bon pour toi. Voilà, pour qu'on ait bien en tête les différents textes auxquels la Gemara se réfère. Donc, malgré les deux séances précédentes qui ont été consacrées à ce sujet, cette Gemara reste encore difficile à cerner. Donc, avançons pour ce qui nous concerne. Un premier point qui a déjà été mentionné au cours des interventions précédentes. Donc on va le formuler sous forme de question. D'où sort cette dualité que la Gemara semble noter entre le Olam Hazé et le Olam Haba? Où y est-il fait allusion dans ces psukim? Réponse claire, nulle part si ce n'est dans la dualité entre le Tov, le bon, et le Osher. Puisque apparemment, ces psaumes ne parlent pas du rapport entre le Olam Haba et le Olam Hazé. Donc on peut donc en déduire que pour cette Gemara, le Osher, le bonheur, est dans ce monde, Olam Hazé, est dans ce monde ce que le Tov est dans le Olam Haba. D'accord ? Donc comme si le Osher et le Tov, c'était deux manières de vivre la même chose, soit une dans le Olam Hazé, soit l'autre dans le Olam Haba. Ce qui nous donne une première définition du Osher très terrestre, on va dire, cantonné, limité au Olam Hazé, à ce monde-ci. Donc dans cette lecture première, disons, le Osher serait une manière de vivre propre à l'existence dans ce monde. D'où la question qu'on a déjà évoquée au sujet du celui qui craint le ciel, Yirei Shamayim. Pourquoi au sujet du Yirei Shamayim, le verset se contente de parler de Osher, donc seulement de son rapport à ce monde-ci. Donc, deuxième remarque liminaire, l'expression Gadol, comme l'avait remarqué Rav Weinstein, peut poser problème, donc plus grand. Parce que ce plus grand établit une comparaison entre celui qui craint le ciel et celui qui jouit de son effort. D'où la question, quelle valeur est comparée entre celui qui profite de ses efforts et celui qui craint le ciel? En quoi le premier est-il plus grand que le second? Est-ce au niveau du mérite? Mais si c'est le cas, de quel mérite parle-t-on? En quoi le mérite de celui qui profite de ses efforts et celui qui craint le ciel sont-ils comparables? Cette question peut se dire d'une autre manière. Si on considère le plan, si on considère la question de savoir sur quel plan sont comparés ces deux hommes, puisque le Yerech Shamayim et le Néhéné Migio ne semblent pas avoir de rapport entre eux. Quel rapport entre craindre le ciel et jouir de son effort? Ces deux attitudes semblent déconnectées l'une de l'autre. Son rapport, donc, n'est pas vraiment comparable. Pour dire les choses simplement, après tout, on peut parfaitement envisager un homme qui craint le ciel et qui est aussi Néhéné Migio, puisqu'a priori, ces deux comportements ne sont pas exclusifs l'un de l'autre. Donc, et si on a du mal à comprendre sur quel plan ils sont comparés, a fortiori, aura-t-on du mal à définir la mesure qui permet d'établir le plus grand d'entre eux. Bon, bref, bizarre cette comparaison. Troisième point, avant d'aborder les différentes propositions de lecture de cette énigmatique Gemara, vous aurez tous remarqué que le Tehilim 128, comme le 112, commence par une affirmation du bonheur relative à celui qui craint Hachem. Donc, Ashrei Ish Yerei Et Hachem ou Ashrei Kol Yerei Hachem. Ce qui semble d'abord effacer l'opposition que remarque la Gemara entre l'homme du psaume 112 et celui du 128. Puisque dans le premier verset, ils sont présentés comme tous les deux craignant Dieu, ayant du bonheur dans cette crainte. Nos difficultés, en tout cas par rapport au plan commun entre celui qui jouit de son effort et celui qui craint Hachem, semblent largement réduites, puisque les deux sont d'emblée présentés comme des craignant Dieu, au même titre, et donc on comprend qu'il soit légitime de les comparer. Donc à partir de là, on pourra considérer que le plus qu'on pourra déceler chez l'un ou l'autre fera pencher la balance en sa faveur, comme si c'était deux mêmes natures, l'un avait une dimension en plus. Ce qui donnerait une Gemara bien étonnante qui dirait la chose suivante. Gadol, donc est plus grand, celui qui tout en étant Yerei Shamayim est en plus Néhéné Migio que celui qui est simplement Yerei Shamayim. Il ne resterait donc, selon cette lecture, qu'à expliquer la grandeur, Mahala, d'être un Néhéné Migio, un jouisseur de son effort. Puisque cela compris, une fois qu'on aura compris ce que ça veut dire, cette grandeur, on aura un Yerei Shamayim plus Néhéné face à un Yerei Shamayim tout court. Parfois les mathématiques ont du bon et on aura bouclé la séance. Il nous faut tout de même remarquer que l'énoncé de la Gemara ne va pas dans ce sens, mais bien dans une opposition entre deux notions, donc celui qui craint Dieu, entre deux hommes, quoi, ou entre la crainte de Dieu, on va dire, et la hana qu'un homme, donc la jouissance qu'un homme pourrait avoir de consommer son effort. Mais ce qu'on a gagné par cette remarque précédente, sur le premier verset, qui est commun au fond d'eux, c'est que la question du rapport entre la Yerat Shamaim et le fait de profiter de son effort peut se formuler ainsi, peut-être, en quoi celui qui profite de son effort dépasse sa propre Yerat Shamaim, puisque on voit qu'il est d'abord présenté comme craignant le ciel. Donc après ces quelques considérations introductives, voyons maintenant trois différentes lectures possibles de cette Gemara. Donc il y en a deux du Marsha et une de Moshe. La première, celle du Marsha dans Berachot 8a sur place, donc le Marsha qui commande sa Gemara. Donc le Marsha fait référence à une autre Gemara dans la Maseret, donc le traité Tanaïd 25a, qui a déjà été présenté dans le séminaire par Michael Seban. Donc on va brièvement l'évoquer. Donc c'est la Gemara de Rabbi Hanina. On va rappeler rapidement cette histoire. Donc Rabbi Hanina est très pauvre. Cette situation pèse tellement sur sa femme qu'elle fait tourner son four à vide le vendredi afin de faire croire à ses voisines, par la fumée qui s'échappe de sa cheminée, qu'elle cuisine normalement ses chalotes. Donc écrasée par cette misère, la femme de Rabbi Hanina demande à son époux de prier afin qu'Hachem améliore leur situation. Rabbi Hanina prie, Hachem entend sa tefila, lui est envoyé du ciel un pied de table en or massif qu'il prend dans l'intention de le vendre et d'avoir un peu d'argent, même beaucoup, pour lui ou sa femme, mais bon, un peu d'argent, pardon. Mais lui, ou sa femme selon les commentateurs, fait un rêve dans lequel il se voit dans le Olam Haba, attablé à une table de 3 pieds seulement, alors que tous les autres qui sont présents sont attablés à des tables de 4 pieds. Comprenant que le pied manquant est celui qu'ils viennent de recevoir dans le Olam Hazeh, sa femme refuse le pied et demande à Rabbi Hanina, son mari, de prier Hachem pour qu'il accepte de le reprendre afin de garder intacte sa table pour le monde futur. Donc on ne va pas refaire tout l'exposé brillant de Michael Seban, mais on va en tout cas remarquer que Rabbi Hanina joue un rôle passif dans cette histoire. Il est vrai que c'est lui qui prie, mais il le fait à chaque fois sur la demande de sa femme, qui prend les initiatives. C'est elle qui lui demande d'intervenir pour qu'Hachem améliore leurs conditions, et c'est elle qui lui demande de prier pour qu'Hachem accepte de reprendre le pied de la table. Donc voilà pour le rappel de l'histoire. Maintenant, voyons ce que dit le Maharsha dans son commentaire de notre Gemara. Puisque le Maharsha va mettre en parallèle cette Gemara qu'on a lue et cette histoire de Rabbi Hanina. Pour le Maharsha, le Néné Miyogio, donc celui qui jouit de son effort, c'est celui qui se contente de ne jouir que du fruit de son travail, au contraire de celui qui accepterait de consommer le salaire de ses bonnes actions, donc de consommer dans ce monde le salaire réservé normalement au Olam Haba de ses bonnes actions. Donc dans cette optique là donc il prend cette opposition Néné Miyogio et Yare Shamaim. Et donc là, dans cette optique-là, le Yare Shamaim serait donc Rabbi Hanina au moment où il accepte de consommer dans ce monde le pied de la table du salaire du monde futur. Puisque pour lui, a priori, il n'y a pas de problème. Mais avant que Rabbi Hanina soit interpellé par sa femme et que sa femme intervienne pour l'en dissuader. Donc le Néné Miyogio, serait plutôt représentée par la femme de Rabbi Hanina, qui, elle, refuse de toucher à ce salaire et va se contenter des quelques miettes qu'ils arrivent à récolter par leurs propres efforts, par leur travail dans ce monde-ci. Voilà. Donc la Gemara dirait donc, selon ce Maharsha, qu'il est préférable de ne pas toucher au salaire qui est réservé pour le monde futur et de se contenter de vivre du travail de ses mains. Puisque dans la Gemara, on dit que Néné Miyogio est plus grand que celui qui est simplement Yare Shamaim. Donc on va faire quelques remarques d'ordre terminologique avant d'aborder le fond du problème posé par ce Maharsha. Alors, remarque sur la Yerat HaShamaim. Comment le Maharsha envisage cette Yerat? Pour lui, celui qui craint le ciel ne semble pas s'inquiéter de profiter dans ce monde du salaire normalement réservé au Olam Haba. D'accord? Puisque, bon, vous avez compris. Est-ce que cela signifie qu'il n'est pas vraiment capable de projet, de se projeter dans le futur? Interprétation possible. Mais comment comprendre ce que dit le Maharsha de celui qui craint le ciel? On laisse cette question en suspens. Mais on remarque que les Chachamim ont abordé ce sujet explicitement à propos du Yare Shamaim dans la lecture du premier pasouk de notre psaume 112. Ashrei ish yire et Hashem bemitzvotav chafetz meod. Donc heureux l'homme qui craint Hashem, il désire très fort ses mitzvot. Et les Chachamim de relever, son désir est dans les mitzvot, bemitzvotav chafetz meod, et non dans le salaire de ces mitzvot. Donc évidemment, pour les Chachamim, en première lecture, en tout cas, ça s'entend comme un éloge. Cette drasha, cette interprétation, est habituellement prise dans le sens d'un éloge fait au Yare Shamaim, en ce qu'il agit de manière désintéressée, sans recherche de la récompense, sans recherche de la jouissance du salaire dans ce monde-ci. Mais dans la perspective du Maharsha, cette même remarque prend un sens plutôt péjoratif, étonnamment. Donc le désintéressement pour le salaire réservé dans le Olam Haba s'entend comme un désintérêt. Désintérêt qui l'amènerait à accepter de consommer ce salaire réservé dans le monde futur, dans ce monde. Maintenant, on va aborder la question de la définition du Néhéné Miyogiyo, toujours selon le Maharsha. Donc, il s'agit pour lui de celui qui se contente de vivre du travail de ses mains. Si cette définition pourrait bien correspondre au pasuk qui dit Yogiya Kapecha Ki Tochal, tu mangeras du travail de tes mains, elle semble pourtant moins bien convenir pour la manière dont la Gemara l'entend, puisqu'elle le traduit ou elle le fait équivaloir ou Néhéné Miyogiyo. En effet, le Néhéné dont la Gemara parle semble insister sur le caractère de jouissance, de profit positif, et non pas simplement de celui qui se contenterait de survivre et de manger de son effort. C'est-à-dire celui qui jouit de son effort, quelque chose de, une dimension positive. Et Néhéné Miyogiyo, et non pas seulement Néhéné Mi Yegiya Kapecha. Donc la Gemara ne parle pas seulement de l'effort de tes mains, de ton travail matériel, autrement dit, enfin, on pourrait traduire comme ça, mais de tout type d'effort. Bref, la Gemara semble ne pas lire le pasouk littéralement, celui qui mange du fruit de son travail, mais comme une métaphore de celui qui tire profit de son effort, et qui en tire presque même jouissance, on va dire. Donc maintenant, le fond du problème quant à cette interprétation du Maharsha. La hiérarchie qui se pose ainsi, selon le Maharsha, donne la grandeur à l'épargnant, celui qui garde son compte, donc celui qui se soucie de maintenir intact son capital retraite par opposition à celui qui le consomme. Mais l'exemple choisi par le Maharsha pour illustrer son propos pose problème, puisqu'il s'agit, dans le cas du Rabbi Hanina, du souci de l'autre, donc de sa femme, la femme de Rabbi Hanina, qui a fait faire à Rabbi Hanina sa tfila. C'est la demande de sa femme qui n'en pouvait plus de cette condition. C'est sur cette demande que Rabbi Hanina accepte de consommer un pied de sa table. Comment concevoir dès lors qu'une telle action soit moins grande que le choix final de sa femme, à savoir se rétracter, renoncer à profiter du salaire, donc du beau pied en or dans ce monde? Du fait de ce constat, gagner un pied de table en or dans ce monde, c'est le perdre comme salaire dans le monde futur. Réponse: on ne sait pas, nous resterons sur cette incompréhension sur les intentions de ce Maharsha. Ça aurait peut-être des propositions. Donc le Maharsha fait lui-même renvoi à un autre endroit où ces psukim sont traités. Donc c'est ces deux psaumes. Et il dit là-bas d'autres mots qui semblent beaucoup plus à notre portée. C'est dans la Gemara Khulin 44a, où la Gemara donc parle de celui qui vérifie lui-même ses propres animaux. Il vérifie l'état de leurs poumons pour savoir s'ils sont cachers ou pas. Et le Maharsha ramène à ce sujet nos deux Mizmorim, psaumes, en disant que le Yare Shamaim serait celui qui, serait celui qui, par crainte de se tromper, savoir si c'est caché ou pas, s'interdirait de consommer les animaux douteux. Et l'on dirait de lui qu'il a accès au Osher dans le Olam Haba. Donc là, on voit que on va faire un commentaire là-dessus, mais que celui donc Yare Shamaim a accès au Osher, mais le Maharsha le lit comme dans le Olam Haba. Tandis que celui qui jouirait de son effort, Néhéné Miyogiyo, serait celui qui ferait un effort particulier, dans la question de savoir si c'est cachère ou pas, une démarche personnelle pour chercher le Kheter, la permission, donc pour chercher à savoir si c'est permis ou non, ce qu'il en est en fait. Et de lui, il serait dit qu'il accéderait au Hosher dans ce monde-ci, puisqu'il pourrait consommer l'objet ainsi permis, et au Tov dans le Olam Haba, du fait de l'effort dans lequel il s'investit pour trouver un vrai Heter, et donc se conformer à la halakha. D'accord, donc? C'est compris? Absolument. Ouais. Et il semble que le Maharsha décrive le Hosher dans ce monde-ci parce qu'il peut, il a cette permission. Il vit cette permission comme un Hosher. Ouais. Ouais. C'est la lecture du Maharsha. On va la commenter. Alors, cette lecture sur le fond ne semble pas poser problème. En effet, la Gemara dit souvent que Koach de Hetera Adif. Donc, la puissance de la permission, au sens de la puissance nécessaire pour permettre, est plus grande que celle de l'interdit. Voilà. Donc, dans les termes de notre Gemara, celui qui fait l'effort pour trouver une permission est plus grand que celui qui se contente de s'abstenir par crainte de fauter. Mais il n'en reste pas moins que c'est tout de même remarquable de lire cette différence dans un contexte d'opposition entre Olam Hazé et Olam Haba. Paradoxalement, ce contexte tel que le donne le Maharsha paraît plutôt réducteur, en effet. Parce que est-ce seulement parce qu'il se permet de profiter un peu plus du Olam Hazé que le Koach de Hetera est adif, c'est-à-dire que la force permissive est plus grande, parce qu'elle ouvrirait à une part dans ce monde-ci, puisqu'elle permet quelque chose? Question qui reste ouverte. Mais, ça fait deux, c'est à vous de répondre. Mais plus proche de notre sujet, on a ici un grand ridouche, une nouvelle idée. Puisqu'en effet, le hosher du Yerei Shamaim, comme l'a remarqué Julien, n'est pas lu simplement, comme nous l'avions fait au départ, comme un hosher ba'olam hazé dans ce monde-ci, donc le hosher n'est plus cantonné dans ce monde-ci. Le Maharsha, en effet, effectue une lecture plus dynamique, on va dire, du hosher, puisque le sens de ce hosher change en fonction de savoir s'il concerne le Yerei Shamaim ou celui qui est Néné Miyagio. Donc selon lui, le Hosher est de ce monde-ci s'il est accompagné d'un Tov dans le Olam Haba, pour celui donc, qui cherche la permission, donc qui fait un effort pour chercher cette permission, mais pris tout seul, pour celui qui vit simplement une manière de maintenir l'interdit, donc de s'abstenir, pris tout seul, il est de l'ordre du Olam Haba. Étonnant. Bon, donc une analyse de ces deux psaumes nous avait amené à formuler une autre hypothèse de lecture de cette Gemara, hypothèse développée dans l'exposé de Chaim Meir. Comme on l'a déjà dit, donc en lisant les deux psaumes comparés par la Gemara, on voit un parallèle évident entre les premiers versets de chacun d'eux, qui disent « Heureux celui qui craint Hachem ». D'accord ? Vous pouvez relire les deux premiers versets. Donc, Chaim Meir nous a fait réfléchir sur l'ambiguïté laissée dans l'expression du psaume 112, donc « à Oler Bidrachav ». Pardon, 128. Donc, « Ashrei kol yirei Hashem à Oler Bidrachav ». Excusez-moi. Donc celui, le psaume qui va évoquer celui qui jouit de son effort. Donc, à Oler Bidrachav, qui veut a priori dire que cet homme, donc qui marche dans ses voies, ici on entend ses voies comme les voies de Hachem, mais qui peut également vouloir dire, selon la lecture de Chaim Meir, que cet homme marche dans ses propres voies. Donc à Oler Bidrachav, dans ses voies à lui. Ce qui avait conduit à envisager le sujet de ce psaume comme, enfin l'homme décrit par ce psaume, comme un inventeur, un innovateur, un homme dont la façon de marcher dans les voies d'Hachem est précisément de marcher dans ses propres voies à lui. Et cette attitude est soulignée dans la Gemara par l'opposition qu'elle fait avec le Tehilim 112, dont on dit, dont il est dans le premier verset, il est dit Mais mitzvotav chafetz meod. Donc, que celui qui craint Hachem, dans ses mitzvot, il désire beaucoup. Enfin, il a un grand désir de mitzvot, de commandement. Donc, au fond, un désir de directive à suivre, pourrait-on dire. Donc voilà l'opposition. On aurait donc comme opposition l'innovateur, l'auteur d'initiative, face au parfait soldat. Celui qui n'attend que de recevoir des ordres pour les accomplir. Et comme on l'a vu plus haut, les Chachamim interprètent ce désir de mitzvot comme un désir de pure obéissance, dans un total désintérêt de la récompense qui en résulte. Donc, notre Gemara ferait donc une opposition hiérarchisée, comme on l'a vu, donc, entre le soldat qui attend avec impatience ses ordres et, plus grand, l'innovateur qui avance dans ses voies. Ses voies avec un petit S, avant qu'elles ne deviennent ses voies avec un grand S, les voies de Hachem. Jean-David Msika nous a déjà bien parlé de cette attitude d'initiateur, d'innovateur. Et Rav Grunstein nous a expliqué comment dépasser le paradoxe qui consiste à prendre pour modèle, sur les Avot du clan Israël, c'est-à-dire à innover à notre tour. Phrase paradoxale. Mais il reste un point sur lequel nous ne sommes peut-être pas assez attardés. Le fait de jouer un rôle d'initiateur implique, ou peut impliquer, disons, c'est le cas là, qu'il y ait un suiveur. Et le suiveur, pour le sujet du psaume 128, pour l'homme du psaume 128, comme pour les avots du clan d'Israël, c'est Hachem. Donc l'attitude du soldat consiste à attendre les ordres ou à se conformer au modèle à imiter, c'est-à-dire prendre les comportements divins qui se manifestent dans le monde comme modèle de mon comportement. Au contraire, être un innovateur, un initiateur, implique que Hachem me suive, que mon comportement soit pris comme modèle pour le comportement divin. Idée littéralement renversante. Voire folle. Comment comprendre cette affirmation qu'Hachem suit quand l'homme ouvre le chemin? C'est une idée que l'on trouve dans l'interprétation des Chazal, notamment, comme on l'a vu avec Rav Grunstein, au sujet de Avraham, qui, en faisant la guerre de nuit, à l'encontre des lois de la guerre d'alors, pour délivrer son neveu Lot, va transformer la nuit en jour. Et c'est sur cette initiative généreuse d'Abraham que va se calquer Hachem lors de la sortie d'Égypte, qui a lieu au milieu d'une nuit transformée par Hachem en jour. Autre exemple, toujours à propos d'Abraham, mais cette fois de son comportement avec les trois invités qu'il reçoit et qui s'avéreront être des anges. À cette occasion, c'est tout le comportement d'Abraham qui est pris comme modèle par Hachem. Les Chachamim, en effet, font dire à Hachem: tout ce que tu as fait avec tes invités de toi-même, je le ferai moi-même à tes enfants. Donc lorsque les nés Israël seront dans le désert. Et tout ce que tu as délégué, continue Hachem, je le déléguerai également. Comment comprendre cette prétention folle qu'ont les Chachamim de s'attribuer à eux ou à leur père, l'initiative du comportement divin? Comment ont-ils pu concevoir une telle idée avant d'avoir su la lire dans les textes? Il semble que l'on pourrait voir dans ces enseignements une grande leçon quant à l'apprentissage de la chorma, la sagesse, en général, et plus particulièrement de mon rapport au divin. En effet, je ne peux recevoir que ce que je me suis disposé à recevoir. Tout dans la Rochma est affaire de positionnement. Et toute la difficulté de l'étude consiste peut-être justement en cette nécessité de faire l'effort de se mettre en position de recevoir. Et sans ce travail, sans cet effort, pour se disposer à recevoir, on ne pourra rien comprendre. De manière plus prosaïque, on dira qu'on a la chorma qu'on sait fabriquer. Et de même, si l'on ose dire, on a le HM que l'on sait fabriquer. Donc si dans ma avoda d'innovateur, pas celle où je suis, le verbe suivre scrupuleusement le manuel comme un soldat, mais celle où je crée un rapport nouveau à la chorma, à HM, donc si dans cette avoda d'innovateur je décide que telle chose mérite que je m'y dévoue personnellement, alors ça devient dans mon monde, ou encore pour un père dans le monde de ses enfants, une chose de première importance qui mérite que même HM s'y dévoue en personne, si on ose dire. Et cela nous semble au moins en partie une explication du principe général qui régit, si l'on peut dire, le comportement d'HM, Mida Keneged Mida. Mesure pour mesure, un principe qui affirme qu'Hachem se comporte avec l'homme comme l'homme se comporte dans sa vie avec lui, avec Hachem, ou avec ses semblables. Par exemple, c'est une idée que l'on trouve beaucoup dans la littérature du mouvement du Moussard, le fait que Hachem juge l'homme selon les principes de rigueur qu'il a lui-même établis dans ses relations avec les autres. C'est donc toute cette idée qui nous semble inclue dans un comportement innovateur pleinement assumé. Et par extension, comme on n'est jamais ou rarement complètement soldat ou complètement innovateur, puisque c'est deux types dont chacun est un mélange, on va dire, cette idée se retrouve dans toute tentative de Avodat Hashem, quelle qu'elle soit. À ce niveau de notre exposé, il semble possible de faire une proposition de lecture de la Gemara Berachot. Donc le Néné Miyagio, celui qui profite pleinement de ses efforts, c'est celui qui prend conscience des implications qu'ont ses actions, et donc son effort. Non pas des implications concrètes au sens d'un résultat auquel elle nous amènerait, mais dans les implications de l'action elle-même, si on peut dire. Ce que ça implique pour moi dans ma façon de me positionner dans le monde, donc par rapport à mes pairs, à mes semblables, et par rapport à Hachem. Et peut-être pourrait-on rejoindre la lecture du Marsha, de la Drasha de Chazal, sur le 112, quand ils disent « Be mitzvotav chafetz meod »« Velo bisrar mitzvotav » Donc, dans ces mitzvot, il désire beaucoup, et pas dans le salaire de ces mitzvot. Son désir dans les directives, et pas dans le salaire qui découlerait de leur accomplissement. Donc, si l'on entend « salaire » au sens large, alors on aurait un soldat qui ne s'intéresse pas. En suivant le marcha, ce serait plutôt péjoratif, ce qui est étonnant, qui ne s'intéresse pas aux implications de ses actes, aux implications de ses efforts. Par contre, à l'opposé, le 128 serait plus grand en ce qu'il aurait pleinement conscience, et même en ce qu'il jouit, et ce qu'il jouit des implications de son effort, qu'il est néné miyogio. Et là, nous touchons un point sensible. C'est le rapport ou le non-rapport entre le Hosher et le Shabbat. En effet, si on a bien défini le Hosher comme une façon de vivre dans ce monde-ci, un Tov d'un autre monde, alors cela fait tout de suite penser au Shabbat, qui est l'expérience par excellence d'un Me'ein Olam Haba, d'un Erzatz, on peut dire, de Olam Haba dans ce monde. Comment comprendre l'absence d'Asheret dans les propos, la manière qu'on a de décrire Shabbat, pardon. On parle déjà, pratiquement, pas à la connaissance de Moshe, de Asheret en ce qui concerne de Shabbat, le vécu de Shabbat. Réponse qu'on anticipe, il semble que Shabbat soit déjà trop de l'ordre du Olam Haba. On explique. Le terme de Oneg, qui est le terme de la Torah pour dire la jouissance du Shabbat, est le terme qui est employé par les Chazal lorsqu'ils veulent parler de la jouissance contemplative des tzadikim, les Atid Lavo, dans le monde à venir. Les It Aneg Al Hashem, donc jouir de la proximité d'Hashem. Le parallèle est d'ailleurs clairement énoncé dans le rapport entre ce qui est affaire et le Shabbat d'une part. Donc on lit Mi she amal be'erev Shabbat ou yochal be'Shabbat. Celui qui s'est donné du mal pendant la semaine pourra en profiter pendant le Shabbat. Et d'autre part, ce qu'on dit sur le rapport entre ce qui est affaire et le monde à venir, Ayom la asotam ou machar le kabel sraram, aujourd'hui pour les accomplir, les mitzvot, et demain pour en recevoir le salaire. Donc on voit ce parallèle. Le Shabbat appartient au monde de la contemplation, on peut dire. Un monde où kol melartecha asuya, où tu dois considérer que tout ce qui était à faire est déjà fait, a déjà été fait. Tandis que le Osher, comme l'a déjà fait remarquer Rav Gronstein dans l'introduction au nom de Rav Hirsch, et ça a été repris plusieurs fois dans les différentes interventions, notamment celle de Julien Anoka, où il a été question de la différence entre Gad et Asher, donc Gad le Mazal et Asher le bonheur. Donc Osher, toutes ces remarques visent à dire que Osher, c'est la progression, une notion de progression, de croissance, d'avancée. Fortschritt, dit Rav Hirsch. Progrès. Donc tout le contraire d'une cessation d'activité. Le Osher, selon ce développement, serait donc une jouissance du labeur, de l'effort pleinement assumé en ce qu'il prend en compte la construction du divin qui en découle. À vous. Le Osher, selon ce développement, serait une jouissance du labeur, de l'effort pleinement assumé en ce qu'il prend en compte la construction du divin qui en découle. Une réponse peut-être, c'est dans la mesure où, enfin on répondra comme ça, c'est que c'est dans le rêve, elle voit que ce bien qui arrive, donc le fait qu'il y ait une prière, c'est pas le problème en fait, mais c'est que le bien qui, le hocher qui, dont elle va profiter, est prélevé sur le salaire du Olam Haba.
Est-ce qu'on a, ça veut dire que toutes nos prières sont comme ça ?
Non, enfin il me semble pas.
Ça veut dire que ce qu'on a comme ça, il faut oublier comment le rêve au bout de la prière.
Je ne vais pas rêver. C'est pas comme ça.
Ah, donc s'il n'y avait pas le rêve, en fait, c'est uniquement le rêve qui pose problème.
C'est le rêve qui révèle.
Mais qu'en est-il de cette opposition entre celui qui travaille et il a une subsistance, on dit qu'elle est décidée de toute façon par un chef, et celui qui a priori ne s'en contente pas et qui dit je veux avoir plus. Toi, parce qu'on m'a fait un peu de mort, tu vois, c'est que moi j'en ai besoin. Donc il y a une opposition entre celui qui a l'air de se contenter du fruit de son travail. C'est qu'il y a de la crainte de la chaîne, et celui qui, a priori, ne s'en contente pas. Enfin, je sais pas si.
Peut-être qu'on pourrait répondre que l'effort qui est demandé à. Enfin, l'effort dont jouit, pardon, celui qui est né Miyogyo. C'est un effort de construction du rapport au divin. Donc la tfila peut faire partie de cet effort-là. Dans une lecture. Voilà. Voilà. Oui. Mais cette construction-là n'est pas une manière de vouloir prélever le capital sur le. C'est-à-dire. Plus grand est celui qui se contente d'obtenir par son effort ce qu'il va avoir.
Oui, par son effort, sans demander, sans intercéder avec Hachem.
Sans chercher à prélever sur le capital de son salaire un bien supplémentaire.
Non, mais c'est pas complètement parce que.
Non. Celui qui se contente d'une table à trois pieds.
Non, celui qui se contente du fruit de son effort.
Ah oui, voilà. Non, c'est ça.
Le salaire des mitzvot, mm-hmm. Dans
Mais ouais. Le problème était de savoir est-ce que
est-ce que Rabbi Hanina priait avant que sa femme lui demande?
Visiblement, il n'est pas pour ça. Lui, il n'est pas content. Ce qui est intéressant, c'est que lui, il s'en est contenté et il n'aurait pas remarqué qu'elle ne pouvait pas le sortir. Il n'a pas vu qu'elle lui dise. Et après, lui, il n'a pas eu, il ne lui a pas dit, écoute, c'est que ça peut nous coûter très cher. Pas. Et lui, il était pour ne pas intervenir. Oui, c'est pas insupportable, sans doute.
Je vais répondre. Oui. Non, je réponds oui. Oui, vous avez raison. Dans le sens, la dernière phrase, de la nécessité de le jouir de son effort, c'est construire, peut-être faire et ensuite entendre. C'est-à-dire de, que par son effort, une réalisation advienne qui permette une compréhension. Je pense. Enfin, moi, je pense. D'accord, allez-y.
Non, je pense pas du tout qu'il faille faire comme on comprend. Je pense pas que si c'est le Nasse Vélishma, vous entendez là, je pense pas que ce soit ça le sens de Nasse Vélishma. Je crois pas qu'on puisse faire sans comprendre. Il est obligatoire à comprendre avant, hein, comprendre avant entendre.
Il y a des sens qui apparaissent après.
Non, il y a. Mais il y a d'autres sens qui peuvent venir, mais ce n'est pas au sens du. C'est vrai que quand on a eu l'idée, justement, que les autres sens qui viennent, ils viennent lorsqu'on a épuisé ce qu'il était possible de faire avec ce qu'on avait entendu. Avec la sagesse qu'on a, on est allé au bout de tout ce qu'on peut faire avec cette sagesse. Alors, le secret, la question, c'est qu'il y aura un autre dévoilement de sagesse. Je viens pas à toucher ce sujet, mais c'est, il se trouve que, est-ce que vous avez pris Elia Tapecha au sens du travail des mains, plutôt que la prière, par exemple? Est-ce que Yéguia Tapecha voudrait exclure la prière? Est-ce que la prière c'est aussi un moyen de. Ou non? Parce que. Je ne voulais pas parler de ce.
pour le Maharsha, oui, mais pas dans la Gemara. Pas pour la Gemara.
J'en ai parlé pour le Maharsha. Le Maharsha, lui, il fait cette différence. Parce qu'a priori, c'est les Gila Kapetra. Alors on peut prendre les Gila Kapetra comme une expression entière, comme ça veut dire le travail. Ou alors, il y a une Gila de Kapetra, c'est-à-dire juste de Kapetra et pas autre chose, pas la prière. Là, la question, c'est pour ça que c'est une autre lecture ce qu'il fait. Quand il met en rapport, il met en rapport avec la Mara de Fanila, où là-bas il s'agit de prière. C'est justement deux lectures possibles. Il y a un capeta où la prière c'est autre chose. Elle n'est pas incluse dans la Ligia. La question de pourquoi on ne parle pas de Hosher sur Shabbat.
Oui, c'est ça. Vous avez dit en même temps, le terme n'apparaît pas.
C'est-à-dire qu'il semble qu'il y ait un rapprochement, en effet, puisqu'il y a un rapport au Olam Haba dans ce monde-ci. Voilà. Mais en quoi, pourquoi le terme n'est jamais appliqué à Shabbat? Pourquoi le terme de Hosher n'est jamais appliqué à Shabbat?
Le Shabbat est le septième jour par le premier de la semaine.
Hein? C'est ça, réponse de Moshe. Le Shabbat est le septième jour de la semaine, pas le premier.
Oui. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de progression. Donc on est dans un HR état.
Tu es dans un Oneg, tu es dans une contemplation de ton.
Ou dans un Oneg, c'est ça. Donc un HR qui tire vers le Oneg.
De ton résultat.
Enfin, dans un état, dans le temps, dans un temps, dans le temps.
Dans quoi? Pas dans le HR, si on le reprend.
Le Hosher, il est lié à Olam Hazeh ou à Olam Haba. Donc, de façon idéale, le Hosher, il est lié à quoi? Olam Hazeh ou Olam Haba?
Olam Hazeh.
Donc, s'il est lié, comme on veut faire dans ce Shabbat, mais dans la
Faites un vous faites un parallèle entre le Tov qui est décrit dans la création et qui est peut-être pas si facile à faire équivaloir au Tov, l'art de, qui est de l'ordre du vécu. Il obéit à sa femme.
Pardon ?
Il obéit à sa femme.
Dans la Gemara commune que tu as citée, tu as dit celui qui vérifie lui-même l'état de, son, de ses animaux, savoir s'ils sont cachés ou pas, donc il s'interdit de les consommer en cas de doute. De la crainte d'Hachem, et suivant l'exemple qu'on a pris, c'est un, on va dire ça comme un suiveur. Et tu as dit, c'est le cher dans le Olam Haba. C'est celui qui fait un effort, qui cherche une permission, alors il aura le, la double gratification, au cher dans le Olam Hazé et top dans le Olam Haba. Et après, mon cher a rappelé ce principe de la puissance de la permission qui est plus grande. Que celle de la joie. Mais on a quand même l'impression que dans le premier cas, toujours par rapport à cette distinction entre le gadol ou pas le gadol, on pourrait presque dire que celui qui est scrupuleux, il a avec lui la tradition des rabbins. Quand on met des barrières, quand on dit qu'il faut, par exemple, pour faire ça avec une armure sur, sur plein de trucs qui ne sont pas directement interdits, mais comme on a un doute, machin, etc. Donc,
Donc les deux sont scrupuleux, l'un ne peut pas être doux, les deux sont scrupuleux. Donc il va être à côté de celui qui ne va pas aller chercher.
Mais il cherche une
permission. La question est de savoir qui est le plus scrupuleux.
Ah, tu l'interprètes comme s'il allait plus loin. Donc l'autre, il s'arrête simplement à un doute.
De Torah dans la démarche de l'autre.
Dans le
dans la démarche de celui qui cherche
le permis.
Il développe la Torah. C'est comme ça qu'on développe la Torah. Il cherche.
Alors pourquoi, le, pourquoi on a ce principe des barrières
enfin, les barrières, c'est pas tout le monde. Les barrières, c'est quand on est jugé, après avoir établi que certaines choses sont permises, on considérait que pour le comportement lui-même, il faut mettre des barrières.
On
ne va pas faire cette recherche et tout, on n'a pas les moyens de la faire cette, cette recherche et il y a, c'est une façon de montrer que la chose nous est importante mais il y a plus que ça simplement de savoir comment est-ce que je vais manger ou je ne vais pas manger, ce n'était pas essentiel, mais est-ce que c'est permis ou est-ce que ça ne l'est pas? Et on pourrait imaginer que, regarde, si c'est permis, ben, il n'est pas obligé de le manger. Et s'il ne le mange pas, c'est pour bien montrer qu'il n'a pas cherché seulement à se permettre quelque chose. Le corps de Hétéra, c'est vrai qu'il arrivait à permettre, c'est même dans la recherche. Arriver à montrer que c'est permis, c'est pas seulement ce qu'on a dit que finalement c'est permis. Mais il y a un développement, ça va dans un autre sens. C'est un monde dans lequel on peut. C'est-à-dire, où est-ce que la présence d'Hachem est plus forte? Puis celui qui se prive, on le doute. Dans celui qui va chercher à montrer que c'est permis. La présence d'Hachem, vous savez, il y a plus de Torah, plus de développement. Il y a un principe dans la halakha que on doit toujours essayer de faire les choses en utilisant au maximum la Torah. C'est-à-dire, par exemple, si je construis une soukha, je veux construire une soukha, je mets 4 poteaux, 4 murs, et une toit, comme une cabane quelconque. Si on construit une soukha dans laquelle on utilise les chidushim de la Torah, l'ofen akuma, c'est la plus partie du toit est considérée comme un mur, et on peut. On additionne pratiquement toutes les constructions dont on a pris en compte, qu'on a validé dans la Gemara. C'est mieux de le faire comme ça que de faire une soukha standard. Bien que la plupart des gens vont faire une soukha simple, mais si on arrive à utiliser dans la construction de la soukha des choses plus de longitud, comme ça, plus de paroles de Torah en quelque sorte, c'est mieux.
Faire un embellissement de la mitzvah.
Oui, c'est cette mitzvah, elle contient plus de paroles de Torah. C'est plus sa tête qu'elle est faite. Dans la démarche de permettre, il y a plus de développement de la Torah.
En fait, cet élément que vous voulez dire interagit avec le principe que on a Hachem derrière nous d'une autre façon. C'est là. Ils ne sont pas votre conclusion principale. Dans les actes, on va plus loin dans la construction de la soukha. Quel est le cas d'initiateur? Non, mais la conclusion, c'est notre lien à Hachem est différent. Quand on est un acteur ou quand on est un suiveur, c'est ça? Dans le cas concret, dans le cas concret que vous avez trouvé, on va plus loin, on suit la lettre, on fait des efforts.
Cet effort consiste, c'est une construction. L'effort pour rechercher la permission, nous aujourd'hui on cherche un chauffeur à l'eau. Mais c'est pas ça qu'on parle quand on cherche le permis, etc. C'est quand j'ai un problème qui n'est pas explicité, marqué permis ou interdit dans le chemin à l'autre. Et on va construire une permission. Construire une permission, c'est un effet. C'est une innovation de construire cette permission. On peut aussi construire un interdit. Ça, on a besoin de pouvoir des impératifs pour dire que même si les deux revenaient en fait au même point de vue de l'effort de construction, malgré tout, c'est-à-dire, on ne parle pas du doute, parce que dans le doute, c'est pas. S'interdire dans le doute, c'est pas de ça qu'on parle. Montrer que quelque chose est interdit, c'est aussi souvent une construction. Comme de montrer que c'est ça. C'est seulement par rapport au doute que c'est. À montrer que c'est interdit, c'est la même chose. Moi, il y a quand même ce quoi, Terra a dit, c'est-à-dire, malgré tout, il restait un nom.
a parlé de des avot d'Abraham ou de la possibilité pour un homme de ce que ça son comportement d'initiateur fasse que le rapport d'Hachem à lui soit comme second, comme suivant, comme consécutif, disons, à son acte à lui. Donc, simplement, ce qu'on a dit, c'est que dans la Chorma, ce rapport est peut-être le. Dans le rapport à la Chorma, pardon, cette mécanique, ou ce mouvement est particulièrement explicite, je pense qu'on a dit ça. C'est-à-dire que dans la Chorma, le fait de l'étude, comme c'est Rav Grunstein, le fait d'actualiser, hein, d'essayer d'actualiser au maximum les livrets Torah, a comme conséquence de tout simplement les rendre plus présentes. En un second temps, on va dire. Rapport à la Chokhmah, c'est une façon d'aborder le lien avec le divin.
Mais en quoi, quand on doit dire un effort pour se disposer à recevoir la Chokhmah, c'est presque l'inverse. T'es suiveur, enfin, t'es pas initiateur. Quand tu fais un effort pour te disposer à recevoir la Chokhmah, tu es en position de récepteur. Tu n'es pas pour prendre pas devant Hachem.
Parce que disons que cette disposition est première. Talmid Chacham. Talmid Chacham, élève des Chacham. C'est non.
Quoi, c'est élève, quoi?
Talmid Chacham.
C'est élève de Chacham?
Mm-hmm.
Oui, et donc il reçoit d'un maître. C'est l'exemple qu'on avait pris de lui. Il reçoit,
mm-hmm.
il reçoit la sagesse d'un maître.
Oui, mais.
À part le fait de dire qu'il fait un mais effort, parce qu'on avait dit qu'il fait un effort pour justement trouver un maître.
Mm-hmm.
En dehors de ça, il n'est pas capable de faire une initiative.
Mais disons que peut-être que ce que le maître va lui apprendre.
Pour que le maître ait envie de lui enseigner aussi.
Est-ce que le maître. Peut-être que ce que le.
Réception pour que le maître puisse lui donner son réellement son savoir. Sinon, ça ne fonctionne pas.
Ce que je veux dire, c'est que finalement, recevoir, c'est pas une étude facile.
Oui, dans ce cas-là, c'est.
Position de l'amiral.
Je suis comme maître. Mon positionnement, c'est la construction du maître comme maître. Il n'y a que moi qui puisse faire de lui un maître.
Mm-hmm.
Donc, si je ne prends pas la posture de l'élève, il ne sera pas le maître. Il peut faire ce qu'il veut, mais il ne sera pas le maître. Pas de barrage.
compléter la réponse par rapport à la à la chorma comme seconde par rapport à celui qui étudie. Moshe voulait préciser que c'est aussi bien pour le Rav que pour l'élève que le rapport à la chorma suppose d'abord un travail de disposition qui en un second temps ouvre à une chorma qui sera comment dire relative et au type et à la nature du travail qui aura été effectué.
Thank you.